c'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra.
Bonjour Colette Brognard, bonjour. Je suis toujours Bernard Legendre, j'ai toujours un plaisir infini à te retrouver pour notre troisième rendez-vous consacré à notre grand homme Léo Ferré.
Alors, dans cette troisième émission, on va parler d'un aspect qui parfois surprend les gens et qui est néanmoins très important dans l'œuvre de Léo Ferré, j'ai fait allusion deux, trois fois, c'est l'humour, l'ironie, la dérision et la distanciation dans l'œuvre de Léo Ferré. Et cette dimension-là, elle est aussi bien dans les textes que dans la musique et dans l'interprétation. Et c'est donc cela que je vais développer. Alors, quelqu'un a dit « L'humour, c'est la politesse du désespoir ». Léo Ferré, lui, il va en jouer sur tous les registres. Alors, l'humour, c'est complexe parce que il y a l'humour noir, l'humour grinçant. Lorsqu'il est très grinçant, il se transforme en ironie. L'ironie, elle peut être cinglante, mordante. Là, on atteint le sarcasme. Sarcasme qui vient du grec et qui veut dire mordre. Et on peut alors glisser dans la diatribe, dans le pamphlet, dans la dérision, voire dans l'autodérision, et de là à la distanciation. On voit donc par là combien le sujet du rire ou du sourire est grave. Et Léo Ferré, là comme ailleurs, c'était un virtuose. Voilà, alors après cette entrée en matière pour montrer combien c'est dense et rang et riche, selon les périodes, Léo a plus ou moins utilisé l'humour, il a glissé après dans l'ironie. Alors la période, disons, humour, c'est peut-être plus quand il est dans les cabarets, donc en début de carrière, et ce, vraisemblablement, à cause du lieu. Parce que dans les cabarets, il fallait intercaler des chansons d'amour, des chansons d'humour, il fallait quand même un petit peu de légèreté. Alors, la légèreté avec Léo, c'est de toute façon toujours intéressant. Hein. Alors, l'humour, donc, l'humour simple, dans des chansons comme « L'inconnu de Londres », où il dit « Et la Vierge lassée, partie sans m'avoir eu, ce n'était qu'un soldat de l'armée du salut. » Dans une autre chanson, il dit « T'en as, moi pas. Si j'en aurais, ça c'est une chanson, c'est le refrain. Alors il fait le tour de l'argent, t'en as, moi pas. Il fait le tour des femmes, t'en as, moi pas. Il fait le tour des amis, t'en as, moi pas. Alors donc il y a de l'humour, il y a le ton aussi, mais on voit aussi que c'est un tout petit peu grinçant. Dans une autre chanson comme Les femmes, il reprend les femmes, et ça a un côté amusant. Dans Le temps du plastique également, c'est la façon de découper le verre qui va être amusante. Par exemple, il dit « Si l'on mettait le temps du plastique en musique, zic, zic. » Et à chaque fois, il va comme ça couper de manière un petit peu ridicule quelque part. Il va en rire les sons. Dans Le marché du poète également, il parle des courses que sa femme lui ramène et qui va l'inspirer. Donc là, on est dans le quotidien. Dans la chanson « On n'est pas des saints », pour la béatitude, on n'a que saints anneaux. Pour vos orphelins, on prie par habitude pour notre Père Nos. Alors là, on est carrément dans les jeux et les calembours dignes d'un élève. D'ailleurs, il faisait ce genre de choses.
Un humoriste.
Oui, d'un humoriste aussi. Voilà. Donc, il jouait de cela avec beaucoup de légèreté, beaucoup de talent, et au niveau de la voix et de l'interprétation. Et on va justement écouter, donc, pour illustrer ce passage-là, la langue française. Donc, qui date de 1960.
C'est une barmaid qu'est ma darling, mais in the bed, c'est mon travelling, mon best-seller et mon planning, c'est mon starter. After shaving, j'suis son parking, son one-man show, son fuel, son king, son slip au chaud, rien qu'un petit flash au 5 o'clock, j'pais toujours cash dans le bon Dieu scope et j'cause français. C'est un plaisir. C'est ma starlette, ma very good, mon pic galette, mon Hollywood. C'est ma baby au tifortou, c'est ma lady oh, un toutou. Je suis son jockey, son steeple chase, c'est la driver à la française dans le sleeping car. After paillasse, à son milk bar, je me tape un glace et je cause français. C'est un plaisir. C'est ma call girl, ma savourex, qui efface sa gueule à coup de Kleenex. C'est ma Lucky, c'est ma Palmal, ma camel qui fait ça pas mal. Quand c'est ok, on fait le remake. Quand c'est loupé, on fait avec. J'y fais le mohair et la syntaxe. Très rock in chair, je shoot relax. Et j'cause français. C'est un plaisir. C'est une barmaid qu'est ma darling. Mais in the bed, c'est du forcing. C'est du pam-pam à chaque coup de gong. C'est plus une femme, c'est un ping-pong. Quand je suis out, elle me sex appeal. Et dans le blackout, je smash facile. Sur son standing in extremis, je fais du pressing au self-service. Et je cause français. C'est un plaisir. C'est mon amour, mon coquelicot, mon petit bonjour, mon petit oiseau, and je speak French. C'est un plaisir.
Jeu de mots. Et on pourra noter que le franglais s'évissait déjà gravement.
Exactement. Donc le franglais s'évissait, la réclame également. Hein, on disait encore la réclame, hein, non pas la publicité. Et il luttait contre cela férocement. Maintenant, c'est la novlangue, c'est l'international, la langue du bois. Et on a perdu beaucoup. On a perdu, de toute façon, c'est clair. J'aime bien une phrase qui n'est pas de Léo Ferré. Donc je peux citer d'autres personnes que Léo Ferré.
Ah oui, des fois.
C'est, oui, rarement, mais néanmoins. À mal nommer les choses, on augmente le malheur du monde. C'est de Camus. Je crois que c'est profondément vrai. Orwell également avait écrit des choses remarquables sur la langue. En ce moment, on parle d'Orwell. Avec la disparition de la langue, la disparition de la pensée, on a la disparition du sujet et de la personne. Bref, on est mal parti, en clair.
Absolument.
Alors, là, c'était de l'humour, disons, et maintenant... On peut glisser vers l'humour noir. Alors l'humour noir, ben, Léo Ferré, chaque fois qu'il chantait des chansons liées à la mort, il était dans l'humour noir, bien évidemment. Donc on en avait parlé dans les autres émissions. Quand je fumais autre chose que des Celtiques, ne chantez pas la mort, on va pas revenir là-dessus. Mais on peut avoir aussi un humour pas noir, mais sombre. C'est le cas de La vie est louche, Les femmes des couches toutes les nuits. Là, c'est une chanson également. La gueuse. Alors la gueuse, c'est un nom que les royalistes donnaient en 1793 à la République française. Donc Léo, il a consacré évidemment une chanson à la gueuse. Il y a d'autres chansons qui sont à la fois de l'humour, disons sombre, mais avec une pointe de cynisme. Et c'est le cas de la chanson L'esprit de famille que nous allons écouter maintenant.
Mon frère était un assassin qui travaillait avec la lame. Et chaque soir après le turbin, il faisait travailler sa femme. Ma sœur écrivait de beaux vers dans un journal hebdomadaire. Et si son verbe était amer, c'est qu'on avait tué le libraire. C'est ce qu'on appelle en vérité une famille respectable. Et l'assassin fut invité à mettre les pieds sous la table. Mon père avait un bar tabac que fréquentait de drôles de têtes. Ils vivaient tous dans l'aléa et papa plaçait leurs galettes. Ma sœur accordait au comptoir d'incommensurables chopines, bossant du matin jusqu'au soir, cherchant une rime à rapine. C'est ce qu'on appelle en vérité une famille infatigable. Le travail, c'est la liberté, c'est une chose formidable. Ma mère alors avait un tic, c'était le complexe d'Édipe. Ce n'est peut-être pas très chic, mais j'avais déjà des principes. Ma belle-sœur, je vous l'ai dit, avait un métier unanime. Elle aimait beaucoup son mari, trouvant cela plus légitime. C'est ce qu'on appelle en vérité une famille véritable, où l'instinct de propriété se révélait inéluctable. Tonton, tata, soudain fauché, fatigué de l'Europe flasque, devinrent tous deux attachés à une ambassade fantasque. On chuchote sous le manteau que tous les soirs à Buenos Aires, tonton, tata, dans leur huis clos, fondirent mains et mains rosaires. C'est ce qu'on appelle en vérité une famille présentable. Et si tonton fut arrêté, ça paraît à peine croyable. D'autres frangins, il y en avait qui faisaient partout. Faut avouer que pour la ligne, ma mère en avait pris un coup. Et malgré l'odeur d'ammoniac, le père aimait à se repaître pour qu'on lui foute le prix cognac. Il y avait plus tellement de kilomètres. C'est ce qu'on appelle en vérité une famille ou une fable écrite sans moralité. Il me manque une rime en able.
Dans une autre version, il dit à la fin « Et si vous saviez combien cela est préférable ?» Alors je me demande quelle idée de rime il avait en disant ça. J'ai remarqué ça, je connaissais plus cette version-là. Alors donc là, c'est l'humour un peu insolent, bien sûr. Il y a aussi l'humour grinçant, par exemple dans la chanson « Judas ». Alors Judas, bien sûr, a trahi le Christ, hein, Judas l'Iscariote, et Léo Ferré va consacrer plusieurs fois des références à Judas. Alors entre autres dans cette chanson, il dit « Je t'en veux pas, mon vieil Iscariote ». Tu m'as donné pour quelques ronds. Sans doute que t'avais tes raisons, mon vieux copain, mon vieux Judas. Mais je valais beaucoup plus cher que ça. Alors la trahison en amitié, c'est un thème qui va revenir souvent chez Léo Ferré, parce qu'il a eu des chagrins d'amitié comme on a des chagrins d'amour. Et il disait entre autres, l'amitié, c'est comme le ciment armé. On ne sait pas comment ça vieillit. Donc l'humour avec en même temps un certain cynisme, on l'a vu. On a une chanson qui, dans ce domaine, est très importante et très choquante pour l'époque. Ça date de 1954. C'est une chanson qui s'appelle « C'est l'homme ». Et elle a été rendue, disons, publique, connue, par Catherine Sauvage. Alors, Catherine Sauvage est une des rares interprètes qui, à l'époque, a pris pratiquement toutes les chansons de Léo Ferré et vraiment a essayé de le servir au mieux parce qu'elle trouvait que ce qu'il faisait était tout à fait remarquable. Alors, on va écouter, non pas avec l'interprétation de Catherine Sauvage, ça fera l'objet d'une autre émission, les interprètes de Léo Ferré, mais par Léo même. Alors, vous allez voir, là, les arrangements de 54 sont très appuyés. Ça date. Alors, Léo Ferré, lui, ce qu'il dit est toujours d'actualité, mais parfois, dans le contexte, ça a pris un petit coup de vieux. On écoute donc « C'est l'homme ».
«
Veste à carreaux, bien smoking, un portefeuille dans la tête, chemise en soie pour les meetings déjà voûtés par les courbettes. La page des sports pour les poumons, les faits divers que l'on mâchonne, le poker d'as pour l'émotion, le jeu de dame avec la bonne. C'est l'homme. Le poil sérieux, l'âge de raison, le cœur mangé par la cervelle, du talent pour les additions, l'œil agrippé sur les pucelles. La chasse à cour chez Bertrand, le dada au bois de Boulogne, deux ou trois coups pour le faisan et le reste pour l'Amazon.
C'est l'homme.
Les 5 à 7, pas vu, pas pris, la romance qui tourne à vide, le sens du devoir accompli et le cœur en celluloïde. Les alcôves de chez Barbès, au secret de Polichinelle, l'amour comprend comme un express alors qu'elle veut faire la vaisselle.
C'est l'homme.
Le héros qui part le matin à l'autobus de l'aventure et qui revient après le turbin avec de vagues courbatures. La triste cloche de l'ennui qui sonne comme un téléphone, le chien comprend comme un ami quand il ne reste plus personne.
C'est l'homme.
Les tempes grises vers la fin, les souvenirs qu'on raccommode avec de vieux bouts de satin et des photos sur la commode. Les mots d'amour rafistolés, la main chercheuse qui voyage pour descendre au prochain arrêt, le jardinier de la fleur de l'âge.
C'est l'homme.
Le va-t-en-guerre, il faut y aller, qui bouffe de la géographie avec des cocardes en papier et des tonnes de mélancolie. Du goût pour la démocratie, du sentiment à la pochette, le complexe de panoplie que l'on guérit à la buvette.
C'est l'homme.
L'inconnu qui salue bien bas les lents et douloureux cortèges, qui ne se rappelle pas qu'il a 75 berges. L'individu morne et glacé qui gît bien loin des mandolines et qui se dépêche à bouffer les pissenlits par la racine. C'est l'homme.
Je ne dirais pas que les arrangements sont si démodés. Ni ringard, ni vintage.
Appuyé, j'ai dit, appuyé. Un peu trop
si j'osais,
illustratif, je dirais.
Si j'osais, je les qualifierais d'intemporels.
Bon, soit. Nous acceptons la remarque de Bernard. Pas la peine de couper la remarque de Bernard.
À propos d'interprètes, on y reviendra comme tu l'as dit, oui. Mais cette chanson a fait l'objet d'une adaptation en anglais, chantée par Erta Kitt, sous le titre « The Hill ».
Bien. C'est une émission bilingue, vous avez remarqué quand même, malgré ce que nous avons dit sur la langue française tout à l'heure. Donc là, on est dans une lucidité terrible, hein, cette chanson, elle balance des trucs quand même graves, hein, si on écoute bien. Alors, d'autres chansons, comme « Graines d'ananas », par exemple, disent aussi des choses très lucides. « Je suis un type à part, une graine d'ananas ». Ou dans la vie moderne, là c'est plus sur le ton de la plaisanterie, où il dit « Des mouchoirs qui ne servent qu'une fois ». Comme ça, au moins, on sait à quoi ça sert d'avoir 10 doigts. Canne la braguette aussi, déjà le titre, Canne la braguette, on sent bien qu'il y a un petit souci. Alors, il parle de cette mer bidon qui a changé de nom. Il l'appelle la Méditerranée. Il est très, très fâché par ce qui se passe sur la côte à ce moment-là. La poêle à frire du soleil cannois. Il en balance, il est fâché, là, il est furieux. Alors, on ne peut pas ne pas parler des temps difficiles qui sont donc, j'en avais, je crois, évoqué la texture, précédemment, c'est donc des chansons de chansonniers, pour le coup, mais qui collent à l'actualité. Si bien que soit on a oublié qui étaient les gens ou les faits divers, donc ça perd un peu de sa force, mais néanmoins, les temps difficiles, on a écrit en 61, 63, 65 et 66. Donc trois pendant qu'il était dans le Lot, hein, puisque l'autre fois l'émission était sur son passage dans le Lot. Alors, petite parenthèse, il y a un chanteur qui s'appelle Bernard Joyer, qui a écrit une excellente version en décalque des temps difficiles en 2014, qui se termine par un hommage à Léo, mais où là, il va parler de Bolloré, par exemple, et de son parachute doré. Donc des choses qui nous parlent parce qu'elles sont effectivement plus fréquentes. Je vous recommande de l'écouter, on la trouve sur Internet. Parfois, l'humour de Léo, elle est dans les titres. Les Piques-Époques, par exemple, ou bien T'es rock, coco. en trois mots, mais évidemment, on pense au rococo. Donc là, on retrouve l'idée des facéties, des jeux de mots. Sachant que les surréalistes, donc il a connu les surréalistes, je rappelle, les surréalistes, pour eux, le jeu était une façon de subvertir le réel. Donc le jeu est quand même très important. Dans la chanson Les Romantiques, que j'ai déjà évoquée d'ailleurs, il y a un parallèle avec un peu d'humour également, un peu d'amertume quelque part. Je vous lis la fin. Ils recevaient, chez eux, dans les soirs de misère, des gens vêtus de noir qu'ils prenaient pour leurs frères. Aujourd'hui, c'est pareil, mais fraternellement, ils branchent leur destin aux abonnés absents. Alors, les abonnés absents, maintenant, ça n'existe plus. Mais enfin, dans le genre Facebook, je pense qu'on doit pouvoir se brancher aussi comme ça, quoi. Alors, l'ironie, on la trouve évidemment dans des chansons qui sont à la fois liées à l'actualité, mais c'est une actualité importante, donc elles n'ont pas perdu de leur force. C'est le cas de la chanson qui s'appelle « La Révolution », qui date de 69. Alors, c'est après 68, bien sûr. En 68, il y a eu des grèves à la télévision. Bon, la télévision qui était aux mains du pouvoir, bien évidemment. Hein. Il y avait un slogan qui disait « Tous les soirs, le pouvoir vous parle ». Et puis, il y avait des grilles sur les affiches, etc. Donc, il y a des journalistes qui ont fait la grève. Et cette chanson, « La Révolution », retrace cette époque-là. 69, donc.
La révolution. La révolution, ça dérange. La révolution, ça s'arrange. La révolution, ça s'explique. Et quand ça s'explique, ça se complique. Et ça se met dans une commission. Et ça se met dans une commission de l'armée de préférence. Et dit Sanguinetti, qui est celui-là dit? C'est un Corse, et non, c'est un gaulliste. La télévision, ça se vise. La télévision, ça divise. La télévision, ça litige. Et quand ça litige, ça se corrige. Ça se met dans un communiqué. Ça se met dans un communiqué. Trafiqué de préférence. Eh, dis, ce Finalteri, c'est celui-là encore. C'est un Corse, c'est un gaulliste. La révolution, c'est pratique. La révolution, ça oblique. Ça tombe comme ça peut et ça prête. Et quand ça prête trop, ça s'achète. Ça se met dans une augmentation. Ça se met dans une augmentation du fumier de préférence. Ortoli! Ortoli! Qui est-ce lui alors? Dit, c'est un gaulliste? Non! C'est un ministre! La révolution tralalère. La révolution tralalère. La révolution tralalère. Quand ça tralalère trop, ça se casse. Ça se met dans un coin à glander. Ça se met dans un coin à glander pour longtemps, de préférence. Et tous ces mecs qu'on voit plus, dit, qui c'était ça? C'était des... Non. C'était peut-être des... Non, 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 non. Et alors, qui c'était? C'était des journalistes honnêtes.
J'y étais, enfin, du moins un soir, parce qu'il il a dû occuper. C'est à Bobino.
C'est Bobino 69, oui, oui, oui.
D'ailleurs, concert qui fait l'objet d'un album, oui. Et il existe un film même. Mmh. J'y étais donc un soir, et à propos de journaliste honnête, je me souviens que ce soir-là, il avait cité Max-Paul Fouché, mmh. Qui se souvient de Max-Paul Fouché, et qui se souvient encore moins d'Ortoli, Sanguinetti.
Oui, mais... Alors, notons aussi le goût pour les accents. Hein. Léo Ferré, il aimait bien prendre des accents. Tout à l'heure, il a fait un faux Maurice Chevalier dans la langue française. Là, il parle à la façon de Maurice Chevalier, l'anglais, quoi. Et il aimait bien imiter les accents et les personnes. Hein. Ça faisait partie. Je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, il aimait beaucoup rire. Hein. Ça surprend un peu, mais dans le quotidien, c'était quelqu'un qui aimait bien s'amuser, plaisanter. Enfin, c'était un méridional, ne l'oublions pas. Voilà, donc en tout cas là, l'ironie, elle est quand même très cinglante. Alors on la trouve, cette ironie, évidemment, dans la complainte de la télé, par exemple. Il en dénonce la stupidité, la vulgarité, il dénonce certaines émissions, certains présentateurs, etc. Alors l'ironie, quand elle est au-delà de ça, bah, elle est mordante. Et là, comme je disais tout à l'heure, on est presque dans le sarcasme. Alors, je redis Monsieur Tout Blanc, j'ai déjà parlé de cette chanson. On l'entendra certainement dans une émission consacrée aux chansons de lutte. Donc Monsieur Tout Blanc, c'est une chanson qui est dédiée à Pie XII. C'est le pape à l'époque, pendant la guerre. Et on peut reprocher à ce pape de ne pas avoir essayé de limiter la déportation des Juifs. Il y a d'ailleurs un film de Costa Gavras sur ce sujet. Et dans cette chanson, il parle de l'hostie, qui donc représente Jésus. Donc le pape, il lui dit « L'oiseau blessé que chaque jour vous consommez était d'une race maudite. Entre nous, dites, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, vous vous taisiez. » Dire ça à un pape, qui est toujours en exercice à ce moment-là, ou dire aux hommes politiques, De Gaulle en particulier, ce qu'il a dit, évidemment, ça n'arrangeait pas forcément la carrière de Léo Ferré. Et comme ça ne suffisait pas, qu'il pratiquait donc pas la langue de bois, il a aussi attaqué les gens du show business. Alors, par exemple, il avait une phrase, lui disait, le showbiz, c'est pas difficile. Le show, c'est nous, le biz, c'est eux. On va écouter la mafia, qui éclaire bien le problème.
Tant pis si t'es dans la débine, t'avais qu'à être dans la mafia. Un coup de sourdine, deux sous de combine, et t'avais ton rata. Tandis que toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tartines et merdailler ta poitrine, faut savoir jouer de la chopine. Et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pourliche et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des pauses, t'es même pas dans le bottin. Ça indispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui te gênent, et la mafia elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia. Avec une crèche, dans une calèche, et des croque-mûches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, car pour louer sous la dalle, c'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, avec des X. Ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, un Cocatrix, un Cocatrix.
Alors, petit rappel, Cocatrix, c'était le directeur de l'Olympia. Évidemment, ça n'aide pas forcément une carrière de dire ce que l'on pense, hein, et de ne pas faire de concessions. Alors, il y avait aussi une chanson qui s'appelait Les Rupins. Bon, maintenant, on dirait Les Riches, hein, parce que ce mot Rupin est un peu dépassé au niveau argotique. Et là aussi, il dit des choses absolument terribles sur les Rupins. Et le problème dans les cabarets, c'est qu'il y avait des petits cabarets où seuls les artistes qui jouaient de la guitare pouvaient aller. Donc, Brassens... Brel, par exemple, mais quand on avait un piano, c'était beaucoup plus compliqué et à transporter d'une part, et puis il fallait de la place. Et dans ce cas-là, donc, on était dans des cabarets un peu plus chics. Et dans ces cabarets un peu plus chics, il pouvait y avoir des repas qui étaient un peu onéreux. Si bien qu'il y avait quand même des gens relativement...
des
rupins. Et entendre ça, évidemment, ça pouvait quand même les déranger. Ça pouvait embêter les propriétaires aussi des cabarets parce qu'ils disaient « il va me faire fuir tout le monde ». Enfin voilà. Mais bon, Léo, il était comme ça, il disait ça. Bon, moi, je me rappelle l'avoir accompagné dans des émissions de télévision. Et là, c'est pareil, à la télévision, les gens, ils avaient peur, ils se disaient « qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire ?» Parce qu'il était quand même entier, un passionné, spontané, et donc il pouvait parfois dire des choses qu'il n'avait même pas envisagé de dire au demeurant. Il pratiquait la vérité. Voilà. Et la vérité, c'est pas toujours facile. Alors Léo Ferré, c'est aussi quelqu'un qui appelait à faire la grève. Hein. C'était un indigné, un agitateur. Là aussi, c'est des chansons qui ne passaient pas sur les ondes, bien évidemment. Alors il y a une chanson qui est satirique également, on va dire, là on monte d'un degré dans l'humour, dans l'ironie plutôt, c'est Le Crachat. Alors, Le Crachat, c'est une chanson des débuts d'ailleurs, et il décrit de façon très réaliste un crachat, il la chante, hein, c'est une chanson chantée avec de la musique et tout, hein. Mais enfin, il décrit un crachat de façon très réaliste. Et à la fin, il interroge le crachat, il lui dit « Qui es-tu, pèlerin gélatineux et froid ?» Et le crachat répond « Je suis la conscience du monde. » Voilà, ça aussi, ça jetait un peu l'effroi et le froid là où il passait. Pacific Blues, également en 60, c'est une chanson antimilitariste. Alors en 60, c'est la guerre d'Algérie qui a lieu. Et dans cette chanson, il dit « Petit soldat deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. » Dans son façon, là encore, c'est le général. Alors le général de Gaulle qui là est président à ce moment-là. Et voilà ce qu'il lui dit. Dans les rues de 89, où coule le sang qui est encore frais, si t'y allais pour faire cuire un œuf, ça ferait de l'effet. Nous, ces rues-là, ça nous connaît, vu qu'on machinait le pavé quand on faisait danser l'histoire dans le drapeau noir. Si la République t'embarrasse, tu n'as qu'à partir à la chasse. Il y aura toujours des chiens voraces pour prendre ta place. On est sans façon, sans empire, c'est peut-être pour ça qu'on peut mourir, mais pas avant de lécher les plats que tu laisseras. Voilà, bon, bah ça, vous savez, ça retarde une carrière, hein, et ça stimule la censure, officielle ou officieuse. Il y a la Marseillaise aussi, il a chanté la Marseillaise. Alors, la Marseillaise de Gainsbourg avait choqué, mais celle de Léo, c'est parce qu'elle n'était pas connue, qu'elle ne choquait pas. Mais ou moins connu en tout cas, parce que là-dedans, il la traite de pute, quoi. Et il dit « Je connais une grue dans ce pays, avec des dents longues comme le bras, et qui dégrave tous les soldats qui ont la mort dans leur fusil. » Là aussi, dans une période de guerre, c'était pas forcément recommandé. Il dénonce aussi la torture en Algérie, Léo Ferré, dans un certain nombre de chansons. Donc, on va écouter une chanson qui date de 61, qui fait un peu le tour de tout ce qui l'embête et l'ennuie, et ça s'appelle « Y'en a marre ».
En même temps que vos impôts, vous pouvez faire monter vos bières. Un jour, vous n'aurez que la peau, messieurs les mecs des ministères. Y en a marre. En même temps que nos chagrins, vous pouvez préparer vos larmes. Un jour nous ferons notre pain dans vos pétrins avec nos armes. Y en a marre. En même temps que nos frangins qui se préparent dans le monde à réviser tous vos machins, nous autres on compte vos secondes. Y en a marre, y en a marre. Il y a quelque temps, Christophe Colomb, croyant découvrir l'Amérique, a découvert dans le coton des blancs jouant avec la trique. Y en a marre. Il y a quelque temps, Monsieur Franco, à peu près au temps des cerises, a descendu tous les oiseaux qui chantaient la terre promise. Y en a marre. monsieur Einstein, loin des canons, croyant travailler pour lui seul, a découvert des équations qui vont nous tomber sur la gueule. Y'en a marre, y'en a marre. Qu'est-ce qu'elle vous a donc fait, la lune, pour vouloir lui refiler vos puces? La vie est courte et il n'y en a qu'une, qu'on soit ricain ou qu'on soit russe, y'en a marre. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait, les étoiles, pour vouloir leur filer les miches? D'ailleurs, au train où elles cavalent, faudrait peut-être consulter vos fiches, y'en a marre. Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait, les hommes, pour vouloir leur filer la cerise? C'est peut-être des poires, c'est peut-être des pommes, mais laissez-leur au moins la chemise. Y'en a marre, y'en a marre. On vit, on mange et puis l'on meurt. Vous ne trouvez pas que c'est charmant? Et que ça suffit à notre bonheur et à tous nos emmerdements. Y'en a marre. Qu'on vive à Paris ou à Rio, qu'on soit enceinte ou bien en carte, qu'on soit sans un ou plein de fafio, la société c'est pas de la tarte. Y'en a marre. Mais peut-être qu'un jour le crucifié lâchera ses clous et ses épines, sa rédemption est tout paquet et viendra gueuler dans nos ruines. Y'en a marre, y'en a marre.
Précision discographique, nous sommes encore dans un enregistrement public sur la scène de l'Alhambra en 1961. Scène qui, enfin, Alhambra Maurice Chevalier à l'époque, scène qui avait disparu, est-elle le phénix, un nouvel Alhambra est né dans le même quartier de la République. Je peux ajouter aussi que je rajouterai volontiers un couplet, il y a tellement de choses dont on a marre.
Oui, pourtant, ils ratissent l'argent quand même. Hein. Il y a le pouvoir, l'armée, le nucléaire aussi. Bon, et là, l'esclavage.
Mais tout ça n'a fait qu'empirer.
Absolument. Ah, mais bien sûr, les poètes, ils ont souvent une approche... ils annoncent, hein, comme des oiseaux de mauvais augure. Hein. Ils annoncent les choses parce qu'ils les perçoivent avant d'autres, bien sûr. Et là, ça ne suffit pas toujours à régler le problème. Alors, la religion, évidemment, c'est assez souvent qu'on s'en prend à la religion pour toutes sortes de raisons. Et il a écrit, entre autres, une chanson qui s'appelle le psaume 151. Alors, pourquoi 151? Bah, parce qu'il y a 150 psaumes. Les psaumes, ce sont des textes religieux et poétiques. Et lui, il a écrit le 151e. Donc, il prend la suite. Et dans le refrain de ce texte, il dit, il fait le tour de tous les malheurs du monde, là aussi, il y en a beaucoup. Et il dit, miserere, Seigneur, du fond des microphones. Miserere, Seigneur, du fond des oreillers. Miserere, Seigneur, du fond de nos gamelles. Tout ça, évidemment, sur une musique tout à fait religieuse. Hein. C'est un vrai psaume. Alors là, on est dans la dérision. Hein. On glisse hein, là, de plus en plus. Là, hein. Dans la chanson aussi, la poésie Foucan-Veillon, il dit « Il n'y a que des bêtas ou du béton, et tes chansons, même en argot, ont quelques siècles sur le dos. » Miss Gaguerre, toujours en 60. Hein. 60, c'était vraiment des périodes difficiles. Hein. Il y avait l'OAS qui posait des bombes. Enfin, c'était très, très particulier comme ambiance quand même. D'ailleurs, il a eu droit à une bombe. Je ne sais pas si c'est à l'Alhambra, d'ailleurs. Enfin, il a eu droit à une bombe pendant un spectacle également. Donc, Miss Gaguerre, évidemment, qui dénonce la guerre. Et puis, toujours Mon Général, parce que De Gaulle, il ne le lâche pas comme ça. Alors, il y a la chanson qui s'appelle Mon Général, où il dit... Alors, il se moque un peu, hein, c'est un pamphlet... J'ai souvenance que vous avez sauvé la France. C'est Jeanne d'Arc qui me l'a dit. C'est une femme qui avait la technique, malgré sa fin peu catholique. Donc là, il y a un mélange à la fois d'humour et puis d'ironie. Hein. Il y a un petit mélange. Alors, une autre chanson en 67, ils ont voté. Ils ont voté et puis après. Alors dans cette chanson, il dit à un moment, ils ont voté, mais il y a toujours De Gaulle au pouvoir. Hein. Alors, voilà. Donc en 67, et il dit... dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Puis quelques années après, ils rechantent, ils ont voté, mais entre-temps, les socialistes sont au pouvoir. Et donc là, il amène une petite variante. Il dit « Dans une France utopique, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste, etc. etc. » Bon, Léo, il aimait bien parfois reprendre et réadapter certains textes. Évidemment, ça marchait bien, ça faisait partie de l'humour et la salle, généralement, réagissait très positivement à tout ça. Alors, la dérision, et voire l'autodérision, on va y arriver, c'est par exemple dans un texte qui s'intitule « Monsieur Barclay », qui est un texte assez léger, assez amusant, bien sûr, il est bref. Et c'est l'époque où ce qu'on appelait les yéyés, cher Bernard, marché du tonnerre. Et les chanteurs à texte, ils commençaient à se faire du souci. Ils avaient déjà eu du mal à se faire entendre et là, ils avaient l'impression qu'ils allaient être balayés par cette vague. Alors, il faut donc écouter cette chanson, Monsieur Barclay, dans cette idée-là, avec ce contexte-là.
Monsieur Barclay m'a demandé Léo Ferré, je veux un succès afin que je puisse promotionné à Europe 1 et chez Fontaine et chez Lourier et chez Dufresne et moi pas con, j'ai répondu voilà patron ce que j'ai répondu yes, yes et Bombay, tirame la gamba, tirame la gamba yes, yes Bombay, tirame la gamba sur le tramway. Monsieur Barclay m'a signifié Léo Ferré, on met le paquet, tirame la gamba, afin que je puisse tirame la gamba, bien m'attraquer. À Europe 1, et chez Fontaine, et chez Lourier, et chez Dufresne, et moi pas fou, du tac au tac, j'ai dit mon loup, v'là ta matraque. Yes, yes, Bombay, tirame la gamba, yes, yes. Bombay, tirame la gamba sur le travail. Monsieur Barclay m'a dit mon cher Léo Ferré, ça ne vaut pas cher. Tirame la gamba, mais si tu me fais, tirame la gamba, un beau succès. Pour Europe 1, et pour Fontaine, et pour Lourier, et pour Dufresne, je suis pas salaud, et pour la peine, je vendrai Rimbaud avec Verlaine. Yes, but can I? Tirame la gamba, yes, but can I? Tirame la gamba, ma fin de bail, ouais.
Il y avait beaucoup à dire sur les relations avec Eddie Barclay.
Oui, bah justement, juste un mot, mais pas. Bon, moi, j'ai rencontré plusieurs fois Eddie Barclay. Eddie Barclay, c'était un pianiste de bar au début, et en fait, c'est sa femme qui avait créé la maison Barclay. Et Barclay, il dit donc, aller en vélo, livrer aux radios le matin, dans le petit matin, les disques pour essayer de les faire passer. Comme faisait d'ailleurs Aznavour, peut-être pas en vélo Aznavour, mais il faisait pareil pour essayer de se faire entendre. Et en fait, Barclay, il a édité Verlaine, Rimbaud, Baudelaire avec Léo Ferré. Et c'était pas du tout évident, c'était très courageux. Et Barclay a découvert énormément de talents. Et il faisait confiance également aux gens, hein, donc, et on était loin des multinationales, des majors et des gestionnaires qu'il y a eu par la suite. Donc, je pense que, et avec Barclay, ma foi, c'était un mec qui avait aussi beaucoup d'humour et je pense qu'il s'entendait pas si mal que ça. Bon, après, il y avait les contrats, c'était parfois un peu compliqué.
Et jusqu'à la rupture. Mais la rupture. Je dis qu'il y aura beaucoup à dire, parce qu'il y a des histoires discographiques qui me passionnent toujours, hein. En particulier l'album de 13 chansons qui a fini à 12 avec un titre censuré, oui. Qui concernait un homme et Johnny Stark. On y va. Et oui. Puis la fin du contrat, où il y a un album Ferré muet, oui. Puisque pour des raisons contractuelles, Ferré n'a pas pu l'enregistrer. Oui. Et c'est Pia Colombo qui le chantait.
Enfin oui, c'est le moment où Léo voulait en fait se tourner vers la musique aussi classique, reprendre tous les arrangements lui-même. Enfin, donc effectivement, il voulait transformer les contrats. Mais quand on est sous contrat, donc effectivement avec Pia, il avait demandé à Pia à chanter la chanson. Et de son côté, Léo a fait un disque que de la musique. Et ce disque va être réutilisé après dans un film d'ailleurs dont je parlerai une autre fois, bah oui, incessamment. Voilà, donc c'est quand même...
Nous apportons un peu nos auditeurs, ils reviendront pour avoir la suite.
Très importante. En tout cas, tout ça pour dire quand même, je le dis, je le re-redis, parce qu'il y a des fois des gens qui parlent de Léo Ferré qui disent un peu n'importe quoi, pour ne pas dire plus. Léo Ferré n'avait pas du tout un ego démesuré. Moi, j'ai rencontré d'autres artistes, d'autres gens de théâtre aussi, des chanteurs, des humoristes, et eux avaient parfois des égos vraiment hypertrophiés. Bon, on sait aussi que ça existe en politique. Je ne fais pas de dessin. Et donc, Léo a écrit, par exemple, un texte qui s'intitulait « Les idoles n'existent pas ». Alors, je vais vous lire, pour le coup, parce que les chansons, on peut les entendre, mais les textes, je vous ai déjà dit combien l'œuvre de Léo Ferré, au niveau de la prose, est très conséquente et remarquable, soit le roman Benoît Misère, les lettres auxquelles j'ai fait allusion la dernière fois, lettres postées et non. Et là, voilà un petit texte de Léo, en 61, d'ailleurs, qu'il a écrit. « Pourquoi je fais un récital ? Je fais un récital pour me distraire, pour faire plaisir à ma femme, pour faire plaisir aussi à mon papa et à ma maman, qui allument tous les soirs une petite lampe dans leur chambre à Monaco, en se disant « pourvu que le petit ne se casse pas la figure ». Je fais un récital parce que, dans le Larousse, il est dit que c'est un spectacle où une personne seule joue d'un seul instrument. Mon instrument, c'est ma voix. J'en jouerai tous les soirs. Pendant 2 heures. Il faut que je chante comme je suis, bien ou mal. Et j'ai choisi le vieux colombier parce qu'il y traîne des ombres généreuses, parce qu'il m'y sera peut-être plus facile d'accorder ma voix aux souvenirs de Ruteboeuf, Ronsard, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire. Je fais un récital pour que de grands poètes comme Aragon aient leur place dans la mécanique contemporaine du jukebox, de la radio et de la télévision. Je fais un récital parce qu'il devient urgent que je prenne un risque de cette sorte à faire quelque chose pour que ma voix soit entendue. Tenter non pas de faire un tour de chant poétique, mais un tour de chant avec de la poésie. Je fais un récital pour essayer de placer la poésie sur les horizons horaires des postes de radio, sur les pellicules de télévision, sur le marbre des journaux, sur les visages même de certains pontes du métier, amateurs de tubes. Je fais un récital parce que j'ai une formidable envie de chanter dans la lumière noire des yeux inconnus. J'aime déjà le bruit redoutable et feutré que font les pas du public, le machiniste préposé au rideau qui fait un signe vers moi, un signe rituel de la descente aux enfers ou de l'envol du cygne. Je fais un récital et je peux voir se succéder indifféremment les applaudissements ou les tomates. Mais mes chiens morts, derrière le rideau, me lâcheront les mains quoi qu'il arrive. Je fais un récital, parce qu'un chanteur, ça chante n'importe quoi, même la poésie.
Bravo. Voilà. Pour l'auteur et pour le récitatif.
Merci. Donc, il a écrit d'autres choses sur le fait qu'il n'était pas une idole. On va écouter une chanson, mais je replace un peu dans le contexte. Léo Ferré, en 68, donc, il y a des vers de lui sur les murs qui sont autant de slogans de 68. Et puis, à partir des années 72, 73, 74, moi, je commence à l'accompagner en 74, Léo Ferré, il déplace des milliers de gens. À Casals, par exemple, dans le Lot, il a déplacé des milliers de gens. Ou bien encore à Dieulefi. Dieulefi, c'est un village de la Drôme qui est bâti comme Saint-Cyr-la-Popie. Et donc, de partout, des gens montaient, ça durait des heures et des heures à pied, parce que les voitures pouvaient pas venir. Et donc, ils étaient là, ils s'installaient, et ils attendaient que Léo Ferré chante. Et ils attendaient, ils y passaient toute la nuit après qu'il ait chanté. Et cette foule, Léo Ferré, ça l'impressionnait. Et il avait dit à son directeur artistique, Richard Marsan, il lui a dit « Mais qu'est-ce que je vais faire pour tous ces petits ?» Alors Richard, en plaisantant, il a dit « T'as plus qu'à marcher sur l'eau. » Et Léo, il voyait ça plutôt, ça l'intimidait. Il se disait pas « Je suis le plus grand. » Alors voilà, c'est dans ce contexte qu'on va écouter la chanson « L'idole ».
Je suis arrivé à 8h15, j'ai crié une sèche en lisant le courrier. dans cette loge d'artistes où s'arrête la gloire, le temps de se refaire une petite beauté. Regarde-moi bien, je suis une idole. J'ai passé mes jours au fil du rasoir. Quand on vend sa gueule sous des projecteurs, on peut pas se permettre d'avoir les cheveux noirs et une barbe toute blanche, même pour trois quarts d'heure. Mes souliers, tantôt bottillons, tantôt mocassins, ça dépend des fois. Et quand à marcher entre deux chansons, j'irai bien pieds nus, seulement ça se fait pas. Regarde-moi bien, je suis une idole. Si j'ai fait mes yeux, c'est pour agrandir les deux petits quinquets que maman m'a donné. Je les voudrais bien verts, d'ailleurs je le fais dire, mais ils sont châtains en réalité. J'ai mis mon costume sorti du pressing, ce vestiaire anglais où on lave même le spleen. Un chanteur qui chante la révolution, sa planque, sa cravate, sa mêle, col d'anton. Regarde-moi bien, je suis une idole. J'ai bronzé ma gueule d'un vieux fond de soleil qu'on me refile en tube chez mon parfumeur. Et quand je fous mes codes sous l'arc des merveilles, on voit des canaux qu'on prend pour des pleurs. Quand tout est fini, le rideau baissé, et que j'entends mourir la rumeur complice, et qu'il n'y a plus rien qu'un silence armé, par tant de passants sous tant de coulisses. Regarde-moi bien, je suis une idole. Et je retrouve mon corps, celui que je rencontre les matins civils, quand je me prends pour moi, le même que l'on voit, le même que l'on montre à je ne sais plus qui, pour je ne sais plus quoi. Et je m'en vais souper traqué dans un coin avec mes copains sur mon addition, en rasant les tables, en me cachant des mains, en disant tout bas la fin de ma chanson. Regardez-moi bien, je suis qu'un artiste.
Dans d'autres chansons, il reviendra sur ce thème, dans « Je fumerai autre chose que des Celtiques », par exemple, « Quand je fumerai », il dit « Je veux être drapé de noir et de raison, battre de l'aile au bord de l'enfer démocrate et cracher sur Trotsky, sur Lénine et Socrate, et qu'on dise de moi, mon Dieu, qu'il était con. Moi, je suis con, ma foi, mes fleurs noires à la face. » Donc, hein, lui, il peut se moquer, il peut prendre des distances, mais attention quand même. Hein. Dans la chanson « Sur la scène » aussi, il dit « Il y a une pute avec des yeux abstraits. » Il parle de lui. Souvent, il se compare aux filles publiques, d'ailleurs, hein, dans plusieurs chansons. Dans « Il n'y a plus rien », qui est un texte long. « Je suis un chien, péraps. Je suis un rat, rien, avec le cœur battant jusqu'à la dernière battue. » Dans « Demain », là, on est dans des textes de la fin de sa vie. Hein, il dit également « Le type que tu vois là, avec sa tête en trapèze, n'existe pas. » Donc, dans sa son œuvre, donc, il y a de l'humour disséminé partout, même dans les chansons populaires, et puis après, donc, ça monte en force, hein, et en, en dérision, en autodérision, en distanciation. Sur scène, il faisait parfois des sortes de sketchs également, parce qu'il aimait aussi s'amuser et amuser son public quand même. Alors par exemple, dans Il n'y a plus rien, je citais tout à l'heure, en 72, il dit « Invente des formules de nuit, C-L-N, c'est la nuit ». Les gens riaient, hein, parce qu'il faisait ça pour les amuser. « À la frontière, vous n'avez rien à déclarer ?»« Non. Comment vous nommez-vous »« Karl Marx. Allez, passez !» Alors là, il mimait tout ça, et bon, les gens étaient toujours partants, hein, toujours. Alors, par ailleurs, son humour, c'est parfois beaucoup plus discret, et peut-être plus des clins d'œil pour lui-même et des sourires intérieurs, parce que parfois, il introduit des poètes ou les musiciens, et là, je ne sais pas si les gens y tiltent forcément, donc je pense que c'était plus pour lui qu'il le faisait. Alors, un exemple avec Victor Hugo. Victor Hugo avait écrit... C'est le bonnet noir que l'on mettra sur le dictionnaire. Et Léo fait un vers en décalque. C'est le bonnet noir que nous mettrons sur le vocabulaire. Et ce genre de choses, il le fait pour énormément de poètes. On peut relever une quinzaine de citations comme ça. Il arrive aussi qu'il fasse parler les morts. C'est ce qu'on appelle dans le langage savant la prosopopée. Donc là, on peut faire parler des êtres inanimés, des morts, des absents. Et entre autres, il va faire parler Baudelaire, Shakespeare. Alors Shakespeare... Bien sûr, le fameux « to be or not to be », et Léo dit « c'est à voir ». Donc, voix off en quelque sorte. Plus étonnant, c'est l'humour dans les chansons graves, tragiques, voire pathétiques. C'est le cas, par exemple, de Pépé. Alors, Pépé, nous l'avons écouté dans la deuxième émission. C'est donc une chanson qu'il a faite pour son chimpanzé qui a été tué. C'est une chanson pour lui terrible. Et dans cette chanson, dès le début, il dit « T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Tandis que lui, ben oui. » Évidemment, les gens riaient. Et Léo, il le disait toujours comme ça. Il le disait toujours avec ce temps d'attente, donc pour déclencher le rire. Alors, dans une chanson déchirante, on peut se demander pourquoi il faisait ça. Alors, je ne lui ai pas demandé, j'aurais dû à l'époque, mais je ne lui ai pas demandé. Mais je pense que c'est par pudeur, c'est aussi pour décharger la charge émotionnelle qui est très forte, et pour lui bien sûr, et pour le public aussi. C'est une sorte de soupape, et de temps à autre, comme ça, ça arrive. Comme est soupape les applaudissements dans un spectacle. Le public, tout à coup, il applaudit. Et quand on empêche le public d'applaudir, par exemple, c'était le cas de Léo quand il chantait Avec le temps en fin de spectacle, il mettait un doigt sur ses lèvres, il refermait doucement le piano et il s'en allait vers les coulisses. Et les gens, ils étaient là, ils avaient envie d'applaudir parce que là, ils étaient complètement coincés. Et je pense que c'était une façon un petit peu de contrecarrer ça également. Il arrivait également que des chansons comme « Avec le temps » ou bien « La vie d'artiste », il les dise avec un ton particulier. On l'entend dans les différents enregistrements qu'on a de ces chansons-là, bien sûr. Donc parfois de façon un peu dérisoire. C'était une façon de prendre des distances aussi. Avec une chanson comme « L'espoir » qui date de 1974, là aussi, on a un effet de surprise. C'est une chanson qui est dédiée à la fois à son fils, Mathieu, qui a 4 ans, à la musique, et là il va... orchestrer lui-même, orchestrer et faire les arrangements et diriger l'orchestre pour l'espoir. Donc pour lui, ça va être vraiment un départ vers autre chose. Il parle aussi de l'Espagne qui est tellement importante pour lui toute sa vie. Et là, puisque sa femme, troisième femme, c'est la mère de ses enfants, est fille de républicain espagnol. Donc tout ça, il y a 3 choses très très fortes dans ce texte, l'espoir. Et à un moment, il dit « Pour que Christophe Colomb découvre... » Tout le monde attend l'Amérique et c'est la musique qui arrive. Et à la fin également, les gens savaient plus ou moins que son fils s'appelait Mathieu et il dit Manuel, 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 Manuel de Falla, donc il rend hommage à un musicien qui s'appelle Manuel de Falla. Donc on se dit c'est quand même bizarre ça, parce qu'on s'est dit peut-être que son gosse finalement s'appelle Manuel. Mais, et c'est là qu'on a toujours des niveaux, des strates différentes chez Léo Ferré, Manuel de Falla s'appelait De Falla y Mathieu. Et Mathieu, c'est Mathieu. Voilà, donc toujours des choses comme ça qui arrivent parfois dans des chansons et qui surprend hein, véritablement, mais qui sont en même temps des éléments tout à fait passionnants. Alors pour finir, nous allons écouter une chanson qui s'intitule « Le conditionnel de variété », donc qui est liée à une époque où un journal a été interdit, mais malheureusement ce genre d'interdiction peut toujours revenir à tout moment. Donc, bien que ce soit une chanson qui date maintenant un petit peu, elle est toujours malheureusement d'actualité. On l'écoute.
Je ne suis qu'un artiste de variété et ne peux rien dire qui ne puisse être dit de variété. Car on pourrait me reprocher de parler de choses qui ne me regardent pas. Comme si je vous disais qu'un premier ministre britannique, ou bien papou, ou bien d'ailleurs, pouvait être déclaré incompétent. Comme si je vous disais qu'un ministre de l'Intérieur d'une république lointaine ou plus présente pouvait être une canaille. Comme si je vous disais que les cadences chez Renault sont exténuantes. Comme si je vous disais que les cadences exténuent les ouvriers, jamais les présidents. Comme si je vous disais que l'humiliation devrait pourtant s'arrêter devant ces femmes des industries chimiques avec leurs doigts bouffés aux acides et leurs poumons en rave. Comme si je vous disais qu'à Tourcoing et plus généralement dans le textile en ce moment, ça licencie facile. Comme si je vous disais qu'il pourrait peut-être exister un prisonnier politique qu'on aurait jugé pour la forme. Comme si je vous disais que je pourrais suivre dans la rue ce procureur qui regarde avec l'eau dans la bouche le ventre d'une enfant mineure. Comme si je vous disais que ce procureur pourrait être celui qui aurait pu requérir contre ce prisonnier politique qu'on aurait jugé pour la forme. Comme si je vous disais qu'un intellectuel peut descendre dans la rue et vendre le journal. Comme si je vous disais que ce journal est un journal qu'on aurait pu interdire. Comme si je vous disais que le pays qui s'en prend à la liberté de la presse est un pays au bord du gouffre. Comme si je vous disais que ce journal qui aurait pu être interdit par ce pays au bord du gouffre pourrait peut-être s'appeler La cause du peuple. Comme si je vous disais que le gouvernement intéressé qui s'en prend à ce genre de presse d'opposition pourrait sans doute s'imaginer qu'il n'y a ni cause, ni peuple. Comme si je vous disais que dans le cas bien improbable où l'on interdirait le journal La cause du peuple, il faudrait l'acheter et le lire. Comme si je vous disais qu'il faudrait alors en parler à vos amis. Comme si je vous disais que les amis de vos amis peuvent faire des millions d'amis. Comme si je vous disais d'aller tous ensemble faire la révolution. Comme si je vous disais que la révolution, c'est peut-être une variété de la politique. Et je ne vous dis rien qui ne puisse être dit de variété, moi, qui ne suis qu'un artiste de variété.
plus que jamais dans l'intemporel. C'est d'une actualité.
Oui, 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 tout à fait. Et c'est une chanson qui illustre bien le propos de ce jour, donc. Hein. Ironie, humour, dérision et distanciation dans l'œuvre de Léo Ferré.
Et je te remercie particulièrement d'avoir mis l'accent sur cet aspect de Léo Ferré trop méconnu et trop ignoré.
Et pourtant, c'est très, très présent.
On nous présente souvent Léo Ferré comme quelqu'un de tragique.
Oui, mais l'humour, c'est la politesse du désespoir. Ouais, hein, on revient à notre point de départ. Hein. Non, mais c'est vraiment, c'est quelque chose qui est dans toute son œuvre et qui était dans sa personne. Et c'est vrai que c'est une façon, des fois, de sourire, de réagir au malheur, hein, l'humour. Voilà.
Sais-tu de quoi tu nous parleras la prochaine fois ?
Oui.
On va faire ce qu'on appelle en français un teasing.
Très bien. Je vois. La prochaine fois, ce sera la musique, les mots et le silence dans l'œuvre de Léo Ferré. Donc, ça sera très axé cette fois sur la musique. Voilà.
Eh bien, cela nous ravit d'avance. Et encore merci pour tes prestations.
Merci de cette écoute et de ce soutien.
Et à la prochaine fois.
À la prochaine fois.